grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, on s'intéresse aux enfants de moins de 6 ans. Comment leur parler de certains sujets quand on est parent, grand-parent, frère, sœur, professionnel de la petite enfance et de l'école maternelle? Comment dire à un tout petit qu'on a perdu son doudou, que l'on va déménager, qu'un membre de la famille est gravement malade, que ses parents vont divorcer ou que le petit chat est mort? Selon les âges, comment parler de ces événements de la vie? Quels mots employer? Que doit-on éviter de dire? Bref, comment parler juste aux enfants? Car comme le remarquait la psychanalyste Françoise Dolto, les enfants sentent juste et il est donc important de leur parler vrai. Pour nous éclairer ce matin, la psychiatre Marie-Noëlle Clément, la pédiatre Bernadette Lavollée et l'infirmière puéricultrice Anne Lucas. Et vous, comment vous y prenez-vous pour parler de certains sujets délicats avec les tout-petits? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook De Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Je crois que vous aurez beaucoup de choses à nous dire ce matin. Chaque mercredi, vous portez un regard singulier sur notre société à la une cette semaine.
Et bien, on parlera de la Chine et de la culture chinoise en France.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebéi.
Bonjour Théo. Je m'appelle Karine. Je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. On t'accueille comme tu es. Si ta maman maintient son choix, des personnes vont prendre une décision pour toi. Et tu auras un papa et une maman d'adoption pour la vie. Si elle se rétracte, alors on l'accueillera. Et on l'aidera à te retrouver. Et à s'occuper de toi. En attendant cette décision, tu vas aller faire une étape chez Jean. Il va prendre soin de toi.
Bonjour Théo.
Extrait du magnifique film Pupille de Jeanne Herry. Bienvenue à nos invités. Bonjour, docteur Marie-Noëlle Clément.
Bonjour, Ali Rebéi.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, directrice de l'hôpital de jour pour enfants, André Bouloche, et vous publiez en poche un livre absolument formidable, Comment te dire, savoir parler aux tout petits. Bonjour, docteur Bernadette Lavollée.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre, créatrice d'une des toutes premières unités mère-enfant et vous êtes l'auteur d'un ouvrage non moins formidable, Les vrais besoins de votre bébé, publié aux Arènes. Bonjour Anne Lucas.
Bonjour.
Vous êtes habituée de l'émission, infirmière puéricultrice et vous êtes responsable d'un centre de protection maternelle et infantile dans le 18e arrondissement de Paris. Vous avez vu Pupille, c'est absolument formidable,
oui.
Bernadette.
Ah oui, j'ai vraiment apprécié justement cette juste parole, cette juste distance, cette juste position et la vérité qui était dite telle qu'elle. Et vraiment, c'est un très beau film. Je recommande à tout le monde d'aller le voir.
Marie-Noëlle Clément.
Oui, absolument. C'est un film merveilleux qui met bien en valeur également le travail formidable du service public en France dans ce qu'il a de meilleur. Voilà. Et puis, l'importance de dire les choses importantes au bébé, même quand il ne comprend pas. Prennent pas encore les mots.
Et oui, la psychanalyste Françoise Dolto soulignait qu'il était important de parler juste aux enfants car ils sentent juste et ils sentent juste très tôt, dès la vie intra-utérine, Bernadette Lavollée.
Oui, ça commence bien sûr dans la vie intra-utérine par les cinq sens et je pense qu'on va beaucoup parler du langage verbal mais aussi du non-verbal qui est très important par les cinq sens et ils sentent tout par tout cela et pas seulement par les mots.
Marie-Noëlle Clément.
Alors effectivement, les tout petits bébés, bien sûr, ne comprennent pas les mots et ils appréhendent le monde essentiellement à travers leur sensorialité. Donc c'est ce qui fait d'eux ce qu'on appelle des éponges à émotions, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui se modifie dans l'atmosphère familiale, eh bien par le biais de leur sens, effectivement, ils le sentent, ils le comprennent d'une certaine manière. Donc ça va être important de pouvoir nommer les choses, voilà, pour structurer petit à petit leur rapport à la réalité.
Anne Lucas.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que les mots servent à mettre du sens dans ce que les bébés ressentent et dont ils ne comprennent pas toujours le va-et-vient des émotions sensorielles, psychologiques. Et les mots servent à apaiser, à donner du sens et à aussi établir une relation entre l'enfant et l'adulte, autre que par juste le portage, le regard, qui est important, mais qui nécessite en plus ce langage et cette musique de la langue.
Le premier langage, c'est le toucher affectif, cette manière d'entrer en contact avec le bébé à travers des caresses et des paroles.
Alors oui, c'est-à-dire que effectivement la question du toucher est très importante avec les tout-petits, mais il me semble qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de les toucher, de les caresser, de les papouiller sans leur parler en même temps. Et en tout cas, c'est extrêmement important de venir accompagner tout cela de paroles.
Bernadette Lavolée.
Oui, je pense que donner du sens, c'est important de nommer une émotion, de nommer un petit mal-être, et c'est le chemin vers leur sécurité de base, vers leur bien-être et vers la pensée pour plus tard, la curiosité, l'éveil à toute la vie.
Annika.
Oui, et puis avec les tout-petits, on part de quelque chose de très concret et de très tactile avec les tout-petits. Et les mots vont permettre aussi, petit à petit, de s'éloigner un petit peu et de pouvoir communiquer sans forcément se toucher. On part du toucher et par la parole, on va vers un petit peu plus loin. Et on les accompagne, ça fait comme un fil pour les accompagner.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le mamané, Marie-Noëlle Clément?
Alors le mamané, c'est cette manière absolument transculturelle, universelle de s'adresser aux tout-petits. C'est-à-dire que dès lors qu'on est face à un tout-petit, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance tout d'un coup à adopter une espèce de prosodie extrêmement chantante. On va dire par exemple « Oh là là, mais qu'il est beau ce bébé! Mais regardez-moi ce bébé, ses petits pieds !» etc. etc. Donc beaucoup d'exclamations, des points d'interrogation, etc. Et le mamané, c'est aussi une forme de communication multimodale. C'est-à-dire qu'il y a les mots et puis il y a aussi toute cette théâtralisation des mimiques qui va accompagner les mots. Et voilà, ça met en quelque sorte les enfants et les parents dans une espèce de bain émotionnel partagé.
Et ce qui est très drôle, c'est de voir comment ce bébé répond à ce mamané. C'est-à-dire que les mimiques qu'on va faire, on voit la bouche du bébé qui bouge de la même manière, on voit les yeux qui s'écarquillent, on voit toute l'attention portée à ça. Et c'est le premier dialogue aussi qui est important.
Bernadette Lavolée.
Oui, et ce va-et-vient, le plus souvent, c'est déclenché par le bébé. Mmh. C'est lui le séducteur, il va sans arrêt nous solliciter et très souvent, on ne répond pas, on n'est pas suffisamment attentif à cet appel qu'il nous lance et auquel on va répondre, mais c'est lui le premier, souvent le déclencheur.
Et les bébés ont quand même plein d'atouts pour déclencher. Hein. Ils ont des joues, ils ont des gros yeux, ils ont une tête ronde, ils ont des petits cheveux, des petits pieds, des petites mains. Tout ça, c'est très mignon. Ce qui donne aussi aux parents l'envie d'aller vers ce bébé qui, par ailleurs, peut pleurer et peut casser les pieds. Donc, tout ça donne envie et donne envie d'aller communiquer avec ce bébé.
Marie-Noëlle Clément.
Oui, oui, tout à fait. C'est très, très important le fait que l'enfant réagisse à ça et qu'il vienne initier les choses. Et d'ailleurs, moi, je dirige un hôpital de jour dans lequel je m'occupe d'enfants autistes. Hein, et on sait que chez les bébés à devenir autistiques, ce sont des bébés qui ne vont pas appeler l'adulte dans cette communication. Donc, c'est vraiment ça, c'est un clignotant qui doit nous faire prendre la mesure que quelque chose ne va pas, peut-être.
C'est ce qu'on regarde et c'est la chose sur laquelle on fait très attention en PMI, c'est ces premières accroches du regard. Et on voit comment certains bébés et certains parents, hop, ça se déclenche, ça se passe très bien. Et d'autres bébés, il faut aller les chercher, il faut aller les appeler, il faut aller les mettre en face de soi et c'est plus difficile. Et c'est vrai que on fait très attention à ce tout début-là de relation, même avant les mots, c'est ces premiers liens qui se tissent.
Marie-Noëlle Clément, pourquoi est-il important d'informer les tout-petits des événements de la vie de la famille ?
Alors, on l'a déjà dit tout à l'heure, les bébés sont de véritables éponges à émotions, donc si quelque chose se modifie dans l'atmosphère familiale, ils vont le sentir. Et puis par ailleurs, il y a des événements de la vie quotidienne qui vont changer l'organisation de la vie quotidienne pour le bébé. Le bébé, c'est un être d'habitude, il a très très besoin que les choses soient ritualisées, que ça se déroule tous les jours de la même manière, et si quelque chose se passe, alors ça peut être un déménagement, une séparation parentale, je ne sais, à ce moment-là, ses habitudes quotidiennes vont être bouleversées et il faut pouvoir lui en dire quelque chose, il faut lui expliquer, il faut accompagner ça de paroles. Même si, effectivement, s'il est tout petit, il ne va pas comprendre les mots. Mais on va aussi accompagner les paroles de gestes pour soutenir la compréhension, etc. Et petit à petit, l'enfant structure son rapport au monde en fonction des paroles que nous posons sur les situations.
Et bien évidemment, il y a des informations qui n'ont pas à être partagées avec les tout petits.
Absolument, il y a des choses qui appartiennent à la vie intime des parents et sous aucun prétexte, effectivement, on ne doit les partager avec les enfants.
Bernadette Lavollée.
Oui, moi ce que je voulais dire, c'est, je le dis très souvent aux soignantes lors des formations, on ne triche pas avec un bébé. C'est-à-dire qu'un bébé, il va sentir vraiment les choses en vérité. Et nous, adultes, on triche beaucoup dans la vie quotidienne, mais pas avec un bébé.
Et oui, pour la psychanalyste Françoise Dolto, on ne peut pas mentir à l'inconscient, il connaît toujours la vérité.
Et puis moi, je voudrais rajouter que plus le bébé est petit, plus l'instant est présent. C'est-à-dire qu'on dit les choses au moment où ça se passe et pas forcément à expliquer ce qui s'est passé très en arrière ou ce qui va se passer très en avant, qui est quand même très compliqué à appréhender. La notion de temps, ça arrive quand même beaucoup plus tard. Donc c'est important aussi de dire les choses simplement au moment où ça se passe.
Marie-Noëlle Clément, quels sont les grands repères de ce parler vrai, authentique, cher à Françoise Dolto?
Alors d'abord, c'est mettre son discours en accord avec ses émotions. C'est vraiment la chose la plus importante. C'est-à-dire que si je ne vais pas bien, si j'ai eu un souci à mon travail et que je rentre un petit peu chamboulée à la maison, eh bien, il faut pouvoir dire quelque chose de ça. Et quand les enfants sont un petit peu plus grands et qui commencent à parler et qui questionnent, certainement pas leur dire « tout va bien », alors qu'à l'évidence, effectivement, tout ne va pas bien. Donc ça, c'est vraiment le premier repère extrêmement important.
Parler simplement.
Parler simplement. Alors, effectivement, à hauteur d'enfant, hein, si, voilà, ne pas utiliser des mots extrêmement compliqués pour un enfant qui commence à parler, par exemple. Se mettre aussi physiquement à la hauteur des enfants, c'est tout bête, mais si on se tient debout pour parler à un tout petit de 2 ou 3 ans, bah, c'est tout de suite un peu impressionnant, hein. Donc, si on a quelque chose d'important à dire, pouvoir s'asseoir à côté de lui, pouvoir s'asseoir à terre à côté de lui, c'est vraiment, ça met déjà sur un pied d'égalité.
Et joindre le geste à la parole pour aider le tout petit à comprendre?
Oui, c'est toujours utile. C'est-à-dire que effectivement, les enfants qui commencent à parler sont encore voilà en difficulté dans leur compréhension. Quand on joint le geste à la parole, quand on accompagne sa parole des mimiques appropriées, eh bien, on soutient la compréhension de l'enfant.
Oui. Et puis, quand quelque chose va moins bien, on est moins disponible aussi. Et de le savoir, c'est important de pouvoir dire aussi à l'enfant « Maman est fatiguée, je suis un peu moins disponible, ça va être un peu plus difficile pour moi, mais je m'assois à côté de toi et on fait un câlin. » Ça peut parfois simplement suffire. Mais de le savoir, qu'on est moins serein, moins patient, c'est aussi utile.
Moi, j'insiste beaucoup aussi pour qu'il y ait le face-à-face, le regard. Je suis impressionnée par le regard des tout-petits qui est toujours très, très insistant et sollicitant. Et c'est toujours nous qui détournons en premier le regard et placer l'enfant le plus souvent possible en face-à-face avec le regard. Je pense que c'est extrêmement important en l'accompagnant avec les mots, mais l'importance du regard.
Et on peut voir comment certains enfants un peu plus grands réagissent à ça et comment certains vont spontanément aller vers son parent, faire un bisou, faire un câlin aussi. C'est très impressionnant de voir comment ces petits peuvent réagir dans ce sens-là.
Oui, par rapport à la question du regard, je voudrais juste une petite remarque qui n'est pas tout à fait dans le sujet du jour, mais les parents sont aujourd'hui beaucoup accaparés par leur téléphone mobile. Et effectivement, le problème du téléphone mobile avec les tout-petits, c'est avant tout l'usage qu'en font leurs parents et le temps par lequel ils sont détournés de leur enfant en utilisant leur téléphone. Et effectivement, on voit des parents... le regard rivé sur le téléphone mobile et l'enfant rivé sur le visage des parents, mais ça ne circule pas, quoi.
Tout à fait. Moi, je voulais vraiment insister là-dessus aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment très important. Ça commence en salle de naissance et ça continue dans les jardins publics partout. Les mamans ne regardent plus leur bébé. Je voudrais dire des petits détails. Par exemple, une poussette, eh bien, une poussette face à face. Si on peut acheter une poussette face à face, je crois que c'est très important. Et puis, lors du sein bon, ça vient plus spontanément, mais lors du biberon, mettre le bébé dans la situation où il va vous regarder et pas avoir le dos contre le corps de la maman et regarder. Beaucoup de mamans donnent le biberon en ayant le bébé qui regarde
à l'avant.
Oui, et ça, c'est vraiment, vraiment très, très important.
Anne-Lucas.
Alors nous, on avait ce souci-là beaucoup à la PMI, en salle d'accueil, avec les parents sur leur téléphone et les enfants tout seuls en train de jouer. Donc en fait, un jour, on en a eu assez et on a enlevé toutes les chaises d'adultes. Et on a tout mis à hauteur d'enfants. Et donc les parents se sont assis sur des petites chaises ou assis par terre. Et déjà, on a remis un peu à la même hauteur, ce qui a quand même un peu facilité les choses.
Le regard de Julien Bisson.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très important parce qu'on sent bien que si on est sur notre téléphone, on a souvent le regard de l'enfant qui se demande « Mais pourquoi me regardes-tu pas ? Pourquoi ce que je fais ne t'intéresse pas ? Et est-ce que moi-même, je ne suis plus digne d'intérêt ? J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette dimension-là qui se joue. Et il faut très souvent combattre dans cette crise de l'attention, il faut très souvent combattre ces mauvais instincts pour aller regarder son enfant.
Et puisque voit l'enfant, c'est le plaisir de l'adulte à être sur un écran. Donc il va voir ça, il va vouloir faire la même chose aussi, cette expérience-là. Donc ça ne va pas aider non plus dans l'utilisation et l'apprentissage de l'utilisation d'un écran.
Allez, dites-nous comment vous parlez de certains événements de la vie au tout petit, 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour, avec l'aide de Nicolas Bauve, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ça, à tata, prout, cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pampant tu. Fais pas ça, à tata, prout, cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ça, à dada, poteau de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu. Fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas ça, à dada, poteau de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une. Mais qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas ci, fais pas ça, à tata pour trop de cadet. À cheval sur mon bidet, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça, fais pas ci, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là. La la la, la la la, la la la, la la la, la, la.
Jacques Dutronc interprété, fais pas ci, fais pas ça.
Tu te pleures. Je vais la prendre. Je laisse la pleurer, elle cherche son sommeil, elle va s'arrêter dans deux minutes.
Grand bien vous fasse.
Alors, écoute tes conseils, hein. Je sais bien que tu la laisses broyer des heures, mais moi je peux pas. Voilà.
Sur France Inter.
Poutou, 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 poutou.
10h24, comment parler au tout petit de certains événements de la vie, comme la mort, la perte d'un doudou, un divorce, un déménagement. Racontez-nous comment vous y prenez au 01 45 24 7000. Alors comment dire à un tout petit que l'on est de mauvaise humeur, Marie-Noëlle Clément, je rappelle que vous publiez « Comment te dire, savoir parler au tout petit ». Comment on parle de ses émotions à un tout petit, à un moins de 6 ans, sans l'angoisser ni le culpabiliser ?
Alors, j'ai envie de dire, on en parle le plus simplement possible, et l'important, c'est déjà d'en parler. C'est-à-dire que on a l'impression que ça va sans dire. Voilà, on rentre du travail, on n'est pas bien, on est un peu en colère, etc. Ça se voit, donc est-ce que ça mérite d'être dit ? Ben oui, ça mérite d'être dit parce que encore une fois, l'enfant va structurer son rapport au monde en fonction des mots qu'on pose sur les émotions et sur les situations. Donc ça, c'est très important. Comme le disait aussi Anne-Lucas précédemment, lui dire que bah, justement parce qu'on est dans cet état-là, bah, on va peut-être un peu moins disponible, peut-être qu'on a besoin d'un peu de temps pour soi. Voilà, et effectivement lui dire aussi qu'il n'est pas responsable de notre émotion. Voilà, on a eu des soucis au travail, on a eu des soucis avec un collègue, avec un ami, etc. Peu importe, en tout cas, ça n'est pas lui qui est responsable de l'état dans lequel on se trouve.
Anne-Lucas, infirmière, puéricultrice.
Oui, puis c'est vrai aussi pour la tristesse. Je trouve que quand on peut se sentir triste d'un événement, c'est important de pouvoir dire à l'enfant que c'est pas sa faute et que si on sourit pas et que si on n'est pas bien, eh ben c'est en tout cas pas de sa faute. C'est pour telle et telle raison, très simplement. Mais je trouve que le sentiment alors la colère aussi, mais le sentiment de tristesse, ça peut aussi être très difficile à comprendre pour les tout petits.
Docteur Bernadette Lavollée, pédiatre.
Oui, moi je crois que c'est très important aussi pour la maman, c'est-à-dire que ça permet, ça donne un temps pour, en mettant les mots pour ce bébé, eh bien, elle va prendre peut-être un minimum de recul pour, et à la limite, je trouve qu'on devrait faire ça avec tout le monde, et que le bébé est un modèle.
C'est un modèle le bébé, Annika?
Oui, tout à fait, mais les plus grands aussi, et les plus grands peuvent réagir aussi, c'est-à-dire qu'on est énervé, les enfants s'énervent, on est triste, les enfants vont nous parler plus fort, vont peut-être pleurer pour nous interpeller, donc c'est ça aussi qui est difficile, c'est-à-dire qu'on peut pas demander à un enfant d'être sage juste à ce moment-là pour nous laisser 5 minutes tranquille. Au contraire, il va aller nous chercher.
Bonjour Albert, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous avez élevé 3 enfants.
Voilà, j'ai élevé 3 enfants dans des conditions assez différentes, puisque ce sont 3 mamans différentes. Mmh. Et j'ai vécu à peu près toutes les périodes, c'est avec l'enfant, sans l'enfant, la garde alternée, la garde partagée. Et pour ce dernier avec qui je vis, c'est moi qui ai la garde et il voit sa maman le week-end.
Alors comment leur parlez-vous à vos enfants, enfin dans la prime enfance, comment leur parliez-vous de certains sujets parfois difficiles?
Eh bien, bon, je bois du petit lait depuis le début de l'émission, je vais redire des choses qui ont été dites, mais je leur parlais normalement, avec un langage, avec un spectre de langage qui était adapté, mais dès la toute petite enfance, dès le nourrisson, je lui parlais déjà normalement, entre guillemets, c'est-à-dire que je savais très bien qu'il comprenait pas, mais de toute façon, il n'aurait pas compris non plus des mots abstraits, je veux dire des mots abétissants. Donc je préférais choisir un registre de mots qui était cohérent, de manière à ce qu'il puisse entendre mon émotion, qu'il puisse entendre tout ce que je disais, qu'il comprenait là, que j'étais bien sûr qu'il comprenait, avec des mots qui n'étaient pas intelligibles à son âge, mais qui petit à petit allaient s'imprégner, et puis un jour ou l'autre, au fil de sa compréhension, il allait faire sens et puis remettre les pièces du puzzle. Mais j'ai misé là-dessus et j'ai eu des enfants qui ont parlé très tôt de ce fait. Très très tôt, à 1 an, mon dernier faisait des phrases, alors des toutes petites phrases, mais avec sujet complément verbe, à l'âge où certains encore ont du mal à prononcer des mots normalement.
Marie-Noël Clément, sur le témoignage d'Albert.
Oui. Alors, je voudrais juste du coup refaire un petit lien avec le mamanet dont on parlait tout à l'heure, parce que donc Albert nous dit qu'il a effectivement parlé très tôt avec au fond avec des mots d'adulte hein, à ses enfants, ce qui est effectivement une option possible. Mais on sait aujourd'hui par des études qui ont été faites que en fait le mamanet, qui est cette forme de langage où effectivement on va utiliser des expressions très courtes, des exclamations, etc. On sait que ça permet d'amener le bébé aussi dans le langage, c'est-à-dire que il y a une catégorisation phonétique que l'enfant va faire à partir de ses expressions, et du coup, il va pouvoir entrer aussi facilement dans le langage. Donc, le fait de parler avec des mots d'adulte ou avec des mots dits d'enfant ou de bébé n'est pas forcément discriminant pour l'entrée dans le langage.
Anne-Luca.
Oui, et puis moi je voudrais souligner l'importance des livres et des histoires et l'importance de l'imaginaire, c'est-à-dire que effectivement c'est important de parler aux enfants du quotidien, des émotions, etc. Je crois que c'est très important aussi d'ouvrir aussi sur l'imaginaire, et des parents qui auraient du mal à pouvoir dire mais comment je parle, comment je dis, il existe tout un tas de petits livres qui parlent des émotions sur lesquelles on peut s'appuyer, et puis des livres qui racontent des histoires pour lesquelles l'enfant peut s'évader et enrichir son vocabulaire et pouvoir appréhender le monde un peu autrement.
Marie-Noël Clément, vous vous appuyez sur les livres.
Oui, c'est très important. Effectivement, quand on ne sait pas trouver les mots, eh ben, y a un tas de livres pour enfants qui existent et qui nous aident à trouver les mots. En plus, dans les livres pour enfants, il y a des images qui accompagnent les mots. Donc ça soutient la compréhension. Et en plus, la prosodie de la lecture n'est pas la prosodie du langage parlé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on va théâtraliser plus. Et là aussi, ça vient soutenir la compréhension chez l'enfant.
Merci beaucoup Albert d'être intervenu. Vous vouliez ajouter quelque chose, Bernadette Lavollée?
Oui, je voulais rajouter, vous en avez parlé tout à l'heure Anne, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire d'être en correspondance au moment où l'enfant ou l'adulte vive quelque chose, d'être dans cette temporalité-là, de pas plaquer à un moment qui n'est pas du tout celui qui correspond en décalage avec l'enfant à ce moment-là. Il faut vraiment être en synchronie, hein, dans l'immédiateté. Par exemple, un enfant qui doit être hospitalisé ou la maman qui doit être hospitalisée, c'est pas la peine de le prévenir 8 jours avant. Oui. Tu sais, maman va aller à l'hôpital ou tu vas aller à l'hôpital. Non, ils vivent dans l'immédiateté et il faut vraiment être en correspondance temporelle entre ce que vit l'enfant et ce que vit l'adulte. Je pense que c'est important.
Julien Bisson.
Et à l'inverse, l'enfant n'est pas toujours synchrone entre ce qu'il vit et le moment où il nous interroge sur ce qu'il est en train de vivre.
Absolument.
Ça lui arrive très souvent de vivre quelque chose et puis 3 jours plus tard, de nous interroger sur ce qu'il a vécu avant.
Tout à fait.
Peut nous surprendre en tant que parents d'ailleurs, à ce moment-là, de se dire mais d'où ça vient ? Et puis il faut essayer de comprendre quelle a été l'origine qui a mis tout cela en moteur dans sa tête.
Oui, puis autant c'est important de parler à l'enfant, c'est aussi important de répondre aux questions parfois très saugrenues et dérangeantes pour les parents. Parler de la mort, ça arrive assez fréquemment, les parents sont pas toujours très à l'aise. Parler de la disparition aussi.
On va revenir sur cette question tout à l'heure, mais évoquons un sujet fondamental, hein, Marie-Noëlle Clément. Comment dire à un tout petit qu'on a perdu son doudou ? Et rappelons peut-être l'importance du doudou que le psychanalyste Donald Winnicott appelait objet transitionnel. Pourquoi c'est si important le doudou pour un tout petit?
Alors, le doudou, c'est la première possession du tout petit qui n'est pas lui. C'est-à-dire que c'est dans son prolongement, mais c'est déjà un premier objet extérieur et ça vient faire vraiment, ça vient permettre le passage de l'extrême proximité avec la mère vers l'ouverture du monde extérieur. Donc c'est effectivement un objet extrêmement important. Alors tous les enfants n'ont pas de doudou, hein, voilà, il y a des enfants qui grandissent sans doudou. Mais pour ceux qui en ont un, effectivement, quand on le perd, c'est vraiment dramatique. Alors comment expliquer ? Ben déjà, ne pas raconter de fables. Alors c'est valable dans plein d'autres domaines d'ailleurs, pas seulement celui du doudou. C'est-à-dire que on est tenté dans des moments comme ça, un peu très émotionnels, on a perdu le doudou, ou bien des moments encore plus émotionnels dans la vie d'une famille, de faire des métaphores. Alors le doudou, bah il est parti en voyage.
Il va faire un tour et il va revenir.
Voilà, exactement. Donc les enfants prennent les mots, les tout petits prennent les mots au pied de la lettre. Hein. Donc si on dit à un tout petit de 2 ans, bah ton doudou est parti en voyage, et ben il va attendre le retour du voyage, effectivement.
Qu'est-ce qu'on lui dit alors à l'enfant qui a perdu son doudou ?
Il faut rester dans les mots de la réalité, c'est-à-dire ben effectivement, on l'a perdu, on va essayer de le retrouver, mais si ça n'est pas possible, de toute façon, nous sommes là pour t'accompagner, on va t'aider aussi à t'endormir, ne t'inquiète pas, donc il faut beaucoup rassurer l'enfant. Ne pas le culpabiliser si c'est lui qui a perdu le doudou, parce qu'il aurait l'impression d'être l'artisan de son malheur en plus, donc c'est pas utile. Mais en tout cas, voilà, rester dans les mots de la réalité, c'est vraiment important.
Anuka.
Et parfois, les parents sont plus catastrophés que le petit. C'est-à-dire que je pense qu'aussi les petits ont la capacité aussi d'accepter la perte et de pouvoir faire autrement. Et il y a des mamans qui sont absolument effondrées à la perte du doudou, comme si c'est elle qui avait perdu le doudou aussi.
Oui, je pense que c'est peut-être la première expérience, enfin sûrement pas la première, hein, il y en a eu d'autres, mais d'une perte importante pour l'enfant, et que la vie va être faite de pertes multiples et plus ou moins importantes, et que, comme vous le disiez, Marie-Noëlle, il faut être dans la vérité, hein, et puis on va, j'allais dire, trouver une solution de remplacement, hein, et je pense qu'avec l'inventivité et de la maman et du bébé, on va y arriver sans trop de drame. Faut pas dramatiser.
Question de Claire Destacan, notre réalisatrice. Doit-on acheter 2 doudous pareils au cas où?
On peut.
Ah oui, moi je le conseille toujours.
Bonjour Sylviane, bienvenue. Vous vous appelez de Mâcon, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Sylviane. Alors vous avez déménagé. C'est évidemment un événement dans la vie de la famille.
Oui.
Comment ça s'est passé? Comment vous en avez parlé à votre fils de 4 ans?
Ben écoutez, moi j'ai une anecdote qui est assez marrante, c'est que suite à une histoire qu'il avait lue d'un livre qu'on lui avait offert sur les petits lutins, qui faisaient de temps en temps des blagues, c'est-à-dire que vous voyez par exemple on retrouvait plus qu'une chaussette après la lessive, et ben c'était qu'il y avait des petits lutins qui étaient cachés dans la machine à laver, qui faisaient des blagues. Donc mon fils avait instauré que voilà, il y avait des petits lutins dans la maison qui nous faisaient des blagues, qui mettaient des petites cuillères derrière la machine à laver, ou voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on lui a annoncé un déménagement qui était plutôt positif pour nous, parce qu'il allait pouvoir enfin avoir un jardin, un cerisier, on pensait lui faire très plaisir en lui annonçant ça. Et en fait, on a vu notre fils se décomposer et nous annoncer « Mais moi, je peux pas déménager avec vous parce que moi, je veux pas laisser les petits lutins tout seuls dans l'appartement. » Donc, du coup, on s'est retrouvé avec cette problématique. Donc, on en a parlé en tous les trois avec le papa et le petit, notre petit garçon de 4 ans. Et on lui a dit, écoute, si c'est ça qui t'arrête, on va demander aux petits lutins s'ils veulent bien déménager avec nous.
Et alors?
Donc, on a mis un mot derrière la machine à laver le soir en leur demandant s'ils voulaient bien déménager. Les petits lutins nous ont dit qu'ils étaient d'accord pour déménager avec nous. Donc, on a trouvé des petits cartons, vous savez, les petits cartons dans lesquels on met les dragées pour les baptêmes et les choses comme ça. On a déposé, la veille du déménagement, on a déposé ces petits cartons devant la machine à laver. Et les petits lutins ont mis des petites affaires, des petits couverts miniatures, des petites choses comme ça. Et donc, on les a emmenés avec nous dans le déménagement. Et mon fils, en arrivant dans la nouvelle maison, a réinstallé les cartons des petits lutins dans son petit placard dans sa chambre.
J'aimerais bien avoir des petits lutins comme ça à la maison. Merci beaucoup, Lucie, pour votre témoignage. Marie-Noëlle Clément, comment on dit à un tout petit qu'on va changer de maison? Elle est pas mal à la méthode de Lucie.
Alors, oui, encore faut-il avoir des petits lutins dans sa machine à laver, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Écoutez, là aussi, donc c'est un déménagement, pour le coup, c'est quelque chose qui va vraiment changer des choses dans le quotidien. Peut-être que l'enfant va changer d'assistante maternelle, de crèche, d'école, etc. Donc, il faut vraiment expliquer les choses. Alors, le faire participer aussi un petit peu à l'événement, c'est-à-dire un carton dans lequel il va pouvoir lui-même mettre un ou deux jouets, etc. C'est-à-dire lui donner un rôle actif dans ce qui est en train de se préparer. Aller visiter les lieux si on peut, ou montrer des photos. Et puis, surtout, penser, si on doit par exemple changer de crèche ou changer d'assistante maternelle, faire un petit événement pour se dire au revoir. C'est-à-dire que c'est pas comme ça une rupture brutale, quelqu'un qui disparaît tout d'un coup de la vie de l'enfant, mais on s'est dit au revoir et du coup, voilà, on peut rester en lien dans sa tête ou même peut-être, voilà, revenir voir les gens, mais en tout cas, qui est une continuité possible.
Et puis tout dépend du contexte. Un déménagement, ça peut être agréable, ça peut avoir une connotation agréable, ça peut être lié à un mariage, à une naissance, à un nouvel emploi. Et puis ça peut aussi accompagner des circonstances plus difficiles comme un deuil ou une séparation. Donc on s'adapte, évidemment.
Oui, bien sûr.
Emeline nous dit, maman d'un petit garçon de 4 ans, il y a un an, nous avons déménagé. Et pour l'aider à passer ce cap important pour ses 3 ans, nous avons beaucoup parlé. Nous l'avons impliqué dans ce déménagement, notamment en faisant... il a fait ses propres cartons. Nous lui avons également acheté un petit livre qui parlait de ce sujet. Oui. C'est bien vu, ça.
Oui, très bien.
Allez, il est temps de retrouver notre camarade Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Au programme, au menu... cette semaine?
Eh bien, on s'intéresse à la Chine et à son influence sur la société française. Alors, j'avoue, je ne suis pas allé voir comment les parents chinois parlaient à leur tout petit. J'aurais dû, et d'ailleurs, aujourd'hui, ça n'aurait pas été difficile. Car 30 ans après la répression des manifestations de Tiananmen, la Chine étend davantage chaque année, désormais, son rayonnement dans le monde, symbolisé entre autres par son gigantesque projet des nouvelles routes de la soie. Et par chez nous alors? Dans ce numéro du 1, nous nous attachons justement à mieux cerner et comprendre l'influence réelle de la Chine en France. Qu'en est-il de ces achats massifs de terres agricoles et de châteaux prestigieux dans le Bordelais? Faut-il s'inquiéter de ces prises de participation dans quelques-unes des entreprises les plus en vue, comme le groupe PSA Peugeot Citroën ou Air France KLM, quand ce n'est pas l'achat de 98% du capital du Club Med? Ces questions, nous les avons posées à l'économiste Claude Meyer, spécialiste de la Chine, et selon qui, jusqu'à présent, l'Europe a été incroyablement naïve et ouverte aux investissements chinois, y compris dans des secteurs stratégiques qui pouvaient toucher à notre sécurité. Depuis 2 ans, on peut constater une réelle prise de conscience, note-t-il, en évoquant notamment le cas de Huawei, vous savez, ce géant de la téléphonie et de la 5G, soupçonné par les États-Unis d'être la tête de pont de l'espionnage chinois.
Alors Julien Bisson, qu'en est-il de la communauté d'origine chinoise en France?
Eh bien, c'est une communauté qui est assez mal connue, qui est quasi invisible malgré les quelques 600 000 personnes qui la composent, une communauté hétéroclite surtout. Les communautés chinoises en France ne s'accordent qu'au pluriel, nous explique ainsi la romancière et journaliste Grace Lee dans nos pages.
entre les descendants des travailleurs de la Grande Guerre, les réfugiés de l'opération Yellow Bird, la diaspora de l'ex-Indochine, les migrants économiques ou les étudiants qui sont restés, il y a probablement moins de points communs qu'entre vous et moi, nous dit-elle. Nous revenons dans ce numéro sur cette longue et souvent douloureuse histoire marquée par le mépris, l'exploitation et la pauvreté, et la jeune femme de dénoncer le racisme dont souffrent encore trop souvent les Asiatiques en France. Racisme souvent discret, minimisé, mais bien présent, mis en lumière par les manifestations de 2016, après les violences dont les Asiatiques ont été victimes. Vous conviendrez tout de même que certains lieux communs sont moins contraignants que d'autres ou moins flatteurs, poursuit Grassley. Par exemple, les traits dont sont affublés les Asiatiques, soumis, besogneux, austères, inexpressifs, fourbes, bons en mathématiques ou en réparation de smartphones et dotés de petits attributs sexuels. Nous ne sommes décidément pas égaux devant les clichés. Loin des clichés et des préjugés, justement, c'est ainsi qu'il faut apprendre à regarder la Chine en France. À nous, selon le célèbre dicton, de savoir bien regarder la lune désignée par le sage et non son doigt.
La France à l'heure chinoise, c'est le sujet du nouveau numéro de l'hebdomadaire Le 1 qui porte chaque semaine un regard singulier sur notre société, à retrouver en kiosque et en librairie. Comment parler aux tout petits de certains événements de la vie comme la mort, la maladie ou la perte d'un doudou? Comment vous y prenez? Vous appelez-nous au 01 45 24 7000.
Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces seins qui poussent? Il est un très belle femme par cette petite secousse. Comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est un très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin est dans le yang. Dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces poils qui poussent? Elle est un très bel homme par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus que plus. La yin est dans le yang est dans le yin. La yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Oh.
Arthur H. interprété il, elle.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
11h moins le quart, comment parler aux tout petits de certains événements de la vie, comme la mort, la perte d'un doudou, un divorce. Racontez-nous votre expérience de parents, de professionnels de la petite enfance au 01 45 24 7000. Question de Julien Bisson du 1,
oui,
à nos invités.
On parlait tout à l'heure de la mauvaise humeur des parents. Alors il y a une mauvaise humeur qui peut être générée par le travail, par beaucoup de choses, et puis il y a la mauvaise humeur qui peut être générée par nos enfants. Comment leur parler justement de la colère ou de la tristesse qu'ils suscitent en nous?
Marie-Noëlle Clément, je rappelle que vous publiez « Comment te dire, savoir parler aux tout petits ».
Bah, écoutez, c'est effectivement important de leur signifier ce que leur comportement nous fait. Donc voilà, s'ils vous poussent à bout, vous avez le droit de le dire, tout à fait.
Deuxième question.
Oui, alors c'était la question des fables. On a évoqué tout à l'heure ces fables de la vie quotidienne avec lesquelles qu'on entretient avec nos enfants. Il y a une certaine fable à l'époque de Noël qui nous occupe tous. Mais quelle place on peut leur laisser? Quelle place on peut laisser à l'imaginaire, justement, sans trahir nos enfants?
Anne Lucas, infirmière puéricultrice.
D'abord, on a plein de livres à disposition dont on peut se servir. On peut aussi inventer des histoires. On peut aussi inventer avec l'enfant en disant, tiens, et si on racontait l'histoire d'eux, et toi, tu dirais quoi? Et moi, je dirais quoi? Ce qui permet aussi à l'enfant de construire, d'imaginer. Moi, je trouve qu'on vit dans un monde assez dur et que parfois, ouvrir sur d'autres choses, d'autres mots, d'autres univers, c'est aussi très enrichissant et important.
Bernadette Lavollée,
moi, je mettrais aussi beaucoup, beaucoup d'humour. Mmh. L'humour, c'est vraiment, ça soulage de beaucoup de choses, ça fait rire, ça fait déposer le paquet de difficultés à côté, et ça, c'est une grande aide dans la vie quotidienne, et notamment avec nos enfants qui parfois nous mettent en difficulté.
Julien Bisson, sur l'humour.
Oui, bah, l'humour, c'est, pour moi, c'est essentiel, c'est ce qui permet de... C'est ce qui permet déjà de faciliter les tristesses, les colères de nos enfants. C'est aussi de pouvoir leur permettre de prendre de la distance par rapport à tout cela. L'humour permet de prendre cette distance et d'arriver à relativiser ces choses. C'est vrai pour les adultes et ça l'est encore plus pour les enfants.
Et les enfants, ils sont très sensibles. Je pense qu'ils saisissent très vite.
Levez le doigt ceux à qui les parents ont déjà parlé de la mort.
Deux doigts seulement se lèvent dans une classe de 30 enfants.
Ben, je demandais à tes parents.
De quoi?
Ce qu'on devenait quand on était mort.
Oui, mais ils m'ont dit, on t'expliquera d'autres fois.
Et tu voudrais leur en poser des questions?
Ah oui, mais ils me disent qu'il faut attendre que j'arrête 10 ans pour comprendre.
Ça te fait peur?
Non, ça me fait pas peur.
Tu y penses pas?
Pas beaucoup, mais j'y pense un tout petit peu.
Une archivina de 1977, la mort, hein, qui reste bien sûr un sujet tabou. Bonjour Lucie.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Faux-la-Montagne. Comment parlez-vous de la mort à vos enfants?
Alors, j'ai un fils qui va avoir 3 ans bientôt. Et donc, ma maman est décédée au mois de novembre dernier, donc sa grand-mère. Et pour nous, c'était très important que notre fils soit présent à l'enterrement. Parce que pour nous, la mort fait partie de la vie et... C'est un événement pour lequel il était très important que notre fils soit à nos côtés et qu'il soit présent à l'enterrement de sa grand-mère. Donc il est venu avec nous à la chambre mortuaire, il a vu le corps de sa mamie, on lui a expliqué ce qui se passait et ça s'est très bien passé. Enfin, c'était juste naturel en fait pour nous. Et par contre pour une partie de la famille... on a eu des remarques comme quoi c'était pas sa place, alors que sa place c'est à côté de ses parents et de sa mamie, donc nous on n'a jamais eu de doute sur le bien fondé de notre de l'inclure dans cet événement de la vie en fait.
Marie-Noëlle Clément.
Alors, effectivement, un décès dans une famille, c'est un grand bouleversement émotionnel, donc il faut absolument en parler aux enfants, parce que sinon, ils sont un petit peu comme s'ils regardaient un film en langue étrangère sans les sous-titres, c'est-à-dire qu'ils voient que tout le monde s'agite, que les gens pleurent, etc., et ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, c'est très important d'en parler. Et puis, alors, faire participer les enfants à l'enterrement, aux obsèques, etc., effectivement, alors après, est-ce qu'il faut qu'ils participent à toutes les étapes ou pas? Bon, ça, c'est dans chaque famille... Chacun trouve sa propre voie. Mais en tout cas, effectivement, participer aux obsèques, c'est un événement familial important. Donc si on laisse l'enfant chez l'assistante maternelle pendant qu'il se passe cet événement familial si important, c'est le mettre vraiment à l'écart de la famille. Donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'important. Et puis ça lui permet aussi de réaliser que son grand-père n'est plus ou que sa grand-mère n'est plus. Ça permettra du coup de revenir dessus par la suite aussi.
Mais est-il bon d'occulter le sujet de la mort pour protéger ses enfants?
Alors non, la mort fait partie de la vie, donc on a plein d'occasions de parler de la mort au quotidien, c'est-à-dire c'est le papillon de nuit qu'on retrouve sur la table de la cuisine au petit matin, ça peut tout simplement commencer par là. Et si on commence à en parler de cette manière-là, eh bien ensuite, on pourra faire le lien, le jour où il y aura effectivement un décès dans la famille, on pourra faire le lien avec ce qu'on a pu observer dans le quotidien.
Al-Nuka.
Et puis ce qui est compliqué pour l'enfant, c'est la temporalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après? Souvent, c'est des questions, mais où il est parti? Est-ce qu'il va revenir? Et en fait, les mots qu'on va pouvoir mettre et dont on va pouvoir en parler après, on va reparler de papy, de mamie après, c'est ce qui va aussi permettre à l'enfant de se rappeler des souvenirs, de faire de la mémoire, et ce qui est important aussi.
Bernadette Lavollée.
Oui. Et c'est tout le problème de la séparation. Et plus le lien aura été fait initialement, et en le vivant en vérité avec les mots justes pour chacun, sans forcément donner tous les détails, bien sûr, hein, il y a beaucoup de détails qui sont pas nécessaires à donner chez les tout petits notamment, mais le vivre en vérité.
On parlait de vérité, mais faut-il se méfier de l'abus de métaphores pour parler de la mort, dire que le grand-père, la grand-mère, le petit chat est parti là-haut dans les étoiles, qu'il vous regarde, etc. Comment on fait avec ces métaphores-là, Marie-Noël Clément ?
Oui, c'est la tentation, hein, parce qu'effectivement, on a l'impression que le dire simplement « il est mort » ou « elle est morte », c'est quelque chose de trop dur à entendre pour l'enfant. Bon, en réalité, l'enfant n'appréhende pas de la même manière que nous la portée de la mort, parce qu'effectivement, la question de la permanence et de l'irréversibilité, c'est quelque chose à quoi il n'a pas accès, en tout cas quand il est tout petit. Hein. Donc c'est souvent moins choquant en fait d'entendre ce mot-là que ce que ça peut l'être pour nous d'une certaine manière. Alors, papy est parti dans les étoiles, mamie est partie habiter au ciel, etc. Les enfants prennent quand même les mots au pied de la lettre avant l'âge de 6-7 ans. Hein. Donc, papy est parti dans les étoiles. On a vu des enfants regarder les étoiles pour essayer de voir leur papy. Donc, il vaut mieux rester dans la réalité des choses pour ce type d'événement.
Julien Bisson.
Oui, c'est une des questions très difficiles à laquelle on doit s'affronter, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas toujours, on n'a pas toujours les bonnes réponses. Nous-mêmes, nous ne savons pas comment répondre à des questions. Qu'est-ce qui se passe après? Je connais des parents qui ont essayé d'expliquer au moment de Pâques la question de la résurrection à leur enfant. Évidemment, pour lui, c'était très difficile à comprendre et il a été totalement chamboulé par cette question-là.
Je crois qu'on peut aussi s'appuyer sur les personnes autour. Quand nous, en tant que parents, on est démunis, on a des grands-parents, des amis, des oncles, des tantes qui peuvent aider. Si j'ai une toute petite anecdote à dire, mon fils a 4 ans, on a perdu notre voisine centenaire et il m'a dit, tu sais, t'inquiète pas maman, parce que si personne ne mourait, ça serait trop lourd à la terre pour porter tout ce monde-là.
C'est joli. Voilà. Merci beaucoup Lucie de nous avoir appelé. Bonjour Céline.
Bonjour,
bienvenue.
Merci de me permettre d'intervenir dans cette belle émission.
Merci, vous êtes assistante maternelle et vous êtes l'auteur du blog Maman du 21e siècle. Alors vous avez deux garçons de 4 ans et demi et 3 ans. Comment vous leur parlez de sujets compliqués comme la mort ?
Alors la mort, on y a été confronté à plusieurs reprises comme dans beaucoup de familles. Alors déjà moi ce que j'avais fait avec mes enfants, c'est que j'avais attendu un petit peu pour leur annoncer le décès, que ce soit de mon grand-père ou de ma tante. J'avais attendu un moment de calme, d'apaisement où je les sentais particulièrement réceptifs. Et ça m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à mes propres émotions et à réfléchir aux mots que j'allais employer. Et j'ai essayé de vraiment leur expliquer, en basant sur le quotidien, que mourir était naturel, que les gens mouraient comme des fleurs qui fanent ou des insectes qui n'avancent plus dans le jardin, et que ça faisait partie intégrante de la vie, en fait. J'opposais pas la mort à la vie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, j'essaie d'être très factuelle, de pas donner du tout d'image du type s'en aller au ciel, mais plus de rester sur maintenant son cœur ne bat plus, il ne peut plus respirer, ou son cerveau arrêté de fonctionner, etc. Et j'ai senti que le fait de mettre des mots justes, justement, apaisait les enfants. Et puis, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est d'associer la mort toujours à un contexte, d'expliquer que généralement on meurt quand on est très très vieux. Et que parfois, malheureusement, on peut avoir une maladie très grave, et j'insistais sur la gravité de la maladie pour pas les inquiéter la prochaine fois qu'ils ont un rhume, en fait. Ou que ça pouvait arriver quand on avait des accidents. Mais j'essayais aussi de leur montrer que j'avais moi aussi des émotions par rapport à la mort, que ça pouvait me rendre moi-même triste parce que la personne qui est morte, je l'aimais beaucoup, que je pourrais plus la revoir et que par conséquent j'avais du chagrin et que ça pouvait arriver que je pleure. J'essayais de me mettre un peu à leur portée.
Comment parler, Marie-Noël Clément, du sujet grave de la maladie, du cancer qui peut frapper une famille, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante? Comment on s'y prend pour parler de ce sujet-là évoqué par Céline?
Oui. Alors effectivement, c'est souvent des sujets qui sont passés sous silence vis-à-vis des petits enfants parce que voilà, on imagine que ça va les choquer, les perturber, etc. Mais ce qu'ils voient, si c'est par exemple un membre de la famille qui est malade, ce qu'ils voient, c'est quand même quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui ne fait plus ce qu'il faisait auparavant, qui dort souvent, qui joue moins avec eux, etc. Donc il faut pouvoir expliquer ça. Alors effectivement, dire que la personne a une grave maladie, c'est important de pouvoir le signifier.
Bernadette Lavolée.
Oui, pour revenir sur la mort, les mots permettent de faire la différence pour les enfants entre la présence corporelle et la pensée. C'est-à-dire que on peut leur expliquer que même si la personne n'est plus là, elle peut être dans la pensée, dans le cœur, dans la tête, dans le cœur, enfin chacun le dit avec ses mots.
Et selon ses traditions.
Et ça permet d'accepter la séparation. Et ça, je pense que les mots sont extrêmement importants pour distinguer la présence de la pensée et le physique et les mots et la pensée. Et les mots donnent accès à la pensée.
Un dernier mot, Céline ?
Oui, moi ce que j'avais essayé de faire aussi, c'était de leur donner des détails, mais toujours en suivant le rythme de leurs questions. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas spécialement de tabou dans mes réponses, mais j'essayais de pas devancer les questions que eux-mêmes pouvaient avoir, parce que je me disais que s'ils les posaient pas, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas prêts ou qu'ils n'avaient pas encore envie de les entendre. Et comme Lucie, je les ai laissés assister moi aussi à chaque fois aux obsèques, sans forcément aller dans la chambre mortuaire, mais en tout cas participer à cet événement familial pour pas les tenir à l'écart de la vie de famille.
Merci beaucoup Céline, je renvoie à votre blog Maman du 21e siècle. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on dit à un enfant grand malade, Marie-Noël Clément ?
Un enfant lui-même gravement malade.
Lui-même gravement malade.
Alors, très important effectivement de lui expliquer ce qui se passe parce qu'il ressent quelque chose dans son corps. Alors les sensations corporelles, ça se structure lentement hein, chez les enfants. C'est-à-dire que pouvoir percevoir effectivement précisément d'où vient la douleur, qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, à quel moment je peux demander un médicament pour être soulagé d'une douleur, etc. Donc ça doit forcément tout ça être expliqué. Où se situe la maladie, qu'est-ce qu'elle empêche de faire, à quels examens ou traitements il va falloir se soumettre.
Oui, c'est extrêmement difficile et je pense que tous les parents et les très proches sont dans un très très grand désarroi. Et c'est l'occasion de dire que on n'est pas toujours apte à répondre à un moment, surtout quand il y a de telles difficultés. Il faut se faire aider. Il y a des gens qui vont vous aider. Dans une famille, si la maman ne peut plus, le papa pourra peut-être. Et puis il faut se faire aider par les gens qui pourront. Il faut savoir trouver la sonnette qui va vous aider, la personne qui va vous aider. Et dans les équipes qui s'occupent de cancérologie infantile, il y a des gens qui vont aider. Et ça, faut utiliser les autres parce qu'on ne peut pas tout seul.
Et on peut s'aider également dans le livre, par exemple, J'ai une maladie grave, on peut en parler. C'est un livret proposé par l'association Sparadrap, disponible sur le site sparadrap.org. Ouais. Faudra revenir hein, parce que j'ai encore des tas de questions à vous poser des questions que se posent les tout petits. Merci à tous hein, d'être venus. Merci Marie-Noëlle Clément. On peut lire en poche et pocket. Comment te dire savoir parler aux tout petits. Merci Bernadette Lavolée, votre livre Les vrais besoins de votre bébé est disponible aux arènes. Merci Anne Lucas. Je vous laisse retourner dans votre PMI, dans le 18e arrondissement de Paris. Demain, on s'intéresse aux substances chimiques qui nous empoisonnent à l'extérieur et à l'intérieur de nos maisons. On évoquera le cas des pesticides, de la pollution de nos maisons, des perturbateurs endocriniens. Toutes vos questions au 01 45 24 7000.